Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
C'est une lettre qui ne parvint jamais à son destinataire et compte nonobstant parmi les plus célèbres de la littérature contemporaine. « Tu étais si gigantesque à tous égards », écrit Franz Kafka à son père en 1919. Gigantesque, fort, puissant, content de lui, convaincu d'être supérieur au monde et si souvent injuste à l'égard de son fils, Hermann Kafka n'est pas le moins intéressant des personnages qui composent l'univers littéraire de son fils. En mars 1966, pour l'émission Le Livre de Chevet, Dominique Rollin lisait La lettre au père de Franz Kafka.
Le Livre de Chevet. Jean-Vincent Bréchignac vous propose Le Livre de Chevet de Dominique Rollin. Ce soir, Lettre au père de Franz Kafka, traduction de Marthe Robert.
Au dehors, toute cette éducation produisit un premier effet. Je me mis à fuir tout ce qui, même de loin, pouvait me faire penser à toi. Et d'abord le magasin. En soi, cependant, j'aurais dû y prendre grand plaisir, surtout quand j'étais enfant, et tant que ce fut une simple boutique. Il était si animé, si bien éclairé le soir. On y voyait, on y entendait tant de choses. On pouvait aussi s'y rendre utile, par-ci, par-là, s'y distinguer, et surtout admirer, dans le déploiement de tes extraordinaires dons de commerçant, admirer ton art de vendre, de traiter les gens, de faire des plaisanteries, d'être infatigable, de prendre une décision immédiate dans les cas douteux, etc. Rien que ta façon de faire un paquet ou d'ouvrir une caisse était un spectacle digne d'être vu, et toutes ces choses, l'une dans l'autre, n'était certes pas la pire des écoles pour un enfant. Mais comme la frayeur que tu m'inspirais m'envahissait peu à peu de tous côtés, le magasin lui-même finit par me causer un malaise. Les événements qui s'y passaient, et qui d'abord m'avaient semblé aller de soi, maintenant me faisaient souffrir et m'accablaient de honte. Ici, je pense en particulier à ta manière de traiter le personnel. Je ne sais pas, il se peut qu'elle ait été la même dans toutes les maisons de commerce. Mais étant enfant, les autres maisons de commerce ne m'intéressaient pas. Toi, en revanche, je te voyais et t'entendais crier, pester, déchaîner ta rage avec une violence qui, à ce que je croyais alors, devait être sans pareil dans le monde entier. Et ceci valait non seulement pour les injures, mais aussi pour la tyrannie que tu montrais d'autre part. Ainsi, tu jetais d'un coup brutal au bas du comptoir les marchandises que tu ne voulais pas voir mêlées à d'autres. Seul, le caractère irréfléchi de ta fureur te donnait quelque excuse, ce qui obligeait le commis à les ramasser. Ou bien, invariablement, tu disais en parlant d'un commis tuberculeux « Qu'il crève donc, ce chien malade !» Tu appelais tes employés des ennemis payés. C'est bien du reste ce qu'ils étaient, mais avant même qu'ils le fussent devenus, tu m'avais semblé être leur ennemi payant. C'est là aussi qu'une grande leçon me fut donnée. J'appris que tu pouvais être injuste. En ce qui me concernait, je ne l'aurais pas remarqué de sitôt. Trop de culpabilité s'était amassée en moi qui te donnait raison. Mais selon mon opinion enfantine, opinion qui fut un peu, mais point tellement corrigée plus tard, les gens du magasin étaient des étrangers qui travaillaient pour nous et qui, en échange, étaient réduits à vivre dans la peur perpétuelle que tu leur inspirais. Ici, naturellement, j'exagérais parce que j'admettais sans plus que tu produisais sur les gens un effet aussi terrible que sur moi. S'il en avait été ainsi, ils n'auraient vraiment pas pu vivre. Dans la mesure où il s'agissait d'adultes ayant pour la plupart des nerfs à toute épreuve, ils n'avaient aucune peine à se débarrasser de telles injures, et la chose, en fin de compte, te faisait plus de mal qu'à eux. Mais cela me rendit le magasin insupportable. Il me rappelait trop ma propre situation à ton égard. Comme homme d'affaires, tu étais en effet abstraction faite de tes intérêts d'employeur et même de ton caractère despotique, si supérieur à tous ceux qui ont jamais été formés par toi, que rien de ce qu'ils réalisaient ne pouvait te satisfaire. Il fallait bien que d'une manière analogue, tu fusses à jamais insatisfait de moi. C'est pourquoi j'appartenais nécessairement au parti du personnel, auquel je me rattachais d'ailleurs de toute façon, en raison de mon caractère craintif, qui, en soi déjà, m'empêchait de comprendre qu'on pût traiter les gens de la sorte et m'inspirait le désir de réconcilier le personnel, ne fût-ce que dans l'intérêt de ma propre sécurité avec toute notre famille. Pour y parvenir, il ne me suffisait pas d'avoir à l'égard du personnel une conduite ordinaire et convenable, je ne pouvais même pas me contenter d'être modeste, il me fallait bien plutôt être humble, non seulement être le premier à saluer, mais encore faire en sorte qu'on ne me rendît pas mon salut. Et même si, en bas, la personne sans importance que j'étais leur avait léché les pieds, cela n'aurait pas encore suffi à les payer des coups que toi, le maître, tu leur assénais d'en haut. Cette situation, qui était alors la mienne quand j'approchais autrui, eut des répercussions qui, dépassant le cadre du magasin, se prolongèrent dans l'avenir. Pour finir, le magasin me fit presque peur. En tout cas, il ne me concernait déjà plus depuis longtemps à l'époque où le lycée vint m'en écarter encore davantage. Il me paraissait d'ailleurs beaucoup trop dispendieux pour les ressources dont je disposais, puisque, à t'entendre, il épuisait même les tiennes. De mon aversion pour ton commerce, donc pour ton œuvre, aversion dont tu ne laissais certes pas de souffrir beaucoup, tu as encore essayé de tirer quelque chose de flatteur pour toi par la suite, en affirmant, ce qui aujourd'hui m'émeut et me fait honte, que si je n'avais pas le sens des affaires, j'avais en revanche des idées plus élevées en tête, etc. L'explication que tu t'extorquais ainsi fit naturellement grand plaisir à ma mère, et moi-même, pris que j'étais dans ma détresse et ma vanité, je me laissais influencer par elle. Mais si ces « idées élevées » avaient vraiment été la seule ou la principale cause de mon éloignement pour le magasin, elles auraient dû s'exprimer autrement qu'en me permettant un abordage définitif dans les parages d'une table de bureaucrate, après m'avoir laissé nager, paisible et craintif, dans les eaux du lycée et des études de droit. Si je voulais te fuir, il me fallait aussi fuir la famille et même ma mère. Certes, on pouvait toujours se réfugier auprès d'elle, mais ce n'était encore que par rapport à toi. Elle t'aimait trop et t'était trop fidèlement dévouée pour pouvoir à la longue représenter une puissance spirituelle indépendante dans le combat mené par l'enfant. L'enfant le sentait d'ailleurs avec un instinct sûr, puisqu'en vieillissant, en effet, maman s'attacha encore plus étroitement à toi. Tandis que pour ce qui la touchait elle-même, elle préservait toujours son indépendance dans les limites les plus précises et le faisait avec grâce et tact, sans jamais te blesser de façon grave. Elle se mit surtout, dans le cas d'ailleurs difficile d'Otla, à accepter les yeux fermés, moins avec l'intelligence qu'avec le cœur, et de plus en plus totalement au cours des années, ta manière de juger et de condamner tes enfants. Sans doute convient-il de ne pas oublier combien la situation de maman dans la famille était douloureuse et exténuante. Elle peinait au magasin et à la maison. Elle souffrait doublement de toutes les maladies de la famille. Mais ce qui couronnait le tout, c'était les souffrances que lui valait sa position intermédiaire entre toi et nous. Tu as toujours été aimant et plein d'égards pour elle. Mais, à ce point de vue, tu l'as aussi peu ménagée que nous l'avons fait nous-mêmes. Brutalement, toi de ton côté, nous d'une autre, nous l'avons martelé de coups. C'était un dérivatif. Nous ne pensions pas à mal. Nous ne pensions qu'au combat que nous avions à livrer, toi contre nous, nous contre toi. Et notre rage se déchargeait sur maman. La façon dont tu la tourmentais à cause de nous, sans en être le moins du monde responsable, bien entendu, n'était assurément pas une contribution utile à notre éducation. Elle justifiait même en apparence notre conduite à son égard, qui, sans cela, eût été injustifiable. Que n'a-t-elle pas souffert, tant par nous à cause de toi, que par toi à cause de nous, sans compter les cas où tu avais raison parce qu'elle nous gâtait, encore que ces gâteries puissent n'avoir été bien souvent qu'une contre-manifestation silencieuse et inconsciente contre ton système. Il va sans dire que maman n'aurait pu supporter tout cela si elle en avait puisé la force dans son amour pour nous tous et dans le bonheur né de cet amour. Par là, je n'ai pas seulement perdu le sens de la famille, ce sens, je l'avais au contraire, encore qu'il fût surtout négatif et dû servir à me détacher de toi intérieurement, entreprise qui, bien entendu, reste à jamais inachevée. Plus encore, si possible, ce sont mes rapports avec les gens du dehors qui en ont souffert. Tu es absolument dans l'erreur, en croyant que je fais tout pour les autres par amour et par loyauté, tandis que je ne fais rien pour toi ni pour la famille, du fait de mon indifférence et de ma perfidie. Je te le répète pour la 10e fois. Il est probable que je serais devenu un être sauvage et timide, même sans cela. Mais pour aller de ce point à celui où je suis réellement parvenu, il y a encore un long chemin sombre à parcourir. Jusqu'ici, j'ai passé relativement peu de choses sous silence dans cette lettre, mais maintenant et plus tard, il me faudra taire ce que, devant toi et devant moi, il m'est encore trop difficile d'avouer. Je dis cela afin que tu n'attribues pas à l'absence de preuves le flou qui pourrait, çà et là, troubler l'image d'ensemble. Des preuves, il en existe au contraire, qui pourraient donner à l'image une crudité insupportable. Ici, il est difficile de trouver un moyen terme. Il me suffit d'ailleurs de rappeler des choses révolues. Par ta faute, j'avais perdu toute confiance en moi. J'avais gagné en échange un infini sentiment de culpabilité. En souvenir de cette infinité, j'ai écrit fort justement un jour au sujet de quelqu'un « Il craint que la honte ne lui survive ». Je ne pouvais pas me transformer subitement quand je rencontrais d'autres personnes. En face d'elles, j'étais pris d'un sentiment de culpabilité plus profond encore, puisque, ainsi que je l'ai déjà dit, je me devais de réparer envers elles les torts que tu leur avais causés au magasin et dont j'étais en partie responsable. En outre, tu avais quelque chose à reprocher, que le reproche fût exprimé ouvertement ou tenu secret à toute personne avec laquelle j'étais liée. J'étais donc encore obligée de lui en demander pardon. La méfiance que tu cherchais à m'inculquer, tant au magasin qu'à la maison, contre la plupart des gens, nomme-moi une seule personne ayant eu quelque importance pour moi dans mon enfance que tu n'aurais pas au moins une fois critiquée jusqu'à la réduire à néant, et qui, chose remarquable, ne te pesait pas le moins du monde. Tu étais bien assez fort pour la supporter, du reste, ce n'était peut-être rien d'autre pour toi que l'emblème du despote. Cette méfiance qui, à mes yeux de petit garçon, ne se trouvait confirmée nulle part, puisque je ne voyais partout que des êtres parfaits et inaccessibles, s'est transformée en défiance de moi-même et en peur perpétuelle des autres. Ce n'était donc assurément pas dans mes relations avec autrui que je pouvais me délivrer de toi en général. Si tu t'y es trompé, c'est peut-être parce qu'en réalité, tu ignorais tout de mes fréquentations et que, dans ta méfiance et ta jalousie, ai-je donc nié que tu m'aimes, tu supposais que je devais me dédommager ailleurs de ce que je perdais dans ma vie de famille, puisqu'il était impossible que j'eusse la même vie au dehors. À cet égard, du reste, c'est justement, étant enfant, que je puisais une espèce de consolation dans ma défiance de moi-même. Je me disais, tu dois exagérer, tu fais ce que fait toujours la jeunesse, tu ressens par trop la moindre vétille comme si c'était une grandiose exception. Mais cette consolation, je l'ai presque perdue plus tard, quand mes vues sur le monde se sont élargies.
Dominique Rollin a lu ce soir un extrait de « Lettre au père » de Franz Kafka, traduction de Marthe Robert. C'était le livre de chevet de Dominique Rollin, une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de production, Janine Antoine.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 mars 1966. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Thank you.